Ce n'est un secret pour personne, la gourmandise est sacrée pour moi. Alors quand Koro m'a proposé de devenir partenaire de ce podcast, j'étais plus que ravie. Si vous ne connaissez pas encore Koro, ce sont les pionniers de l'alimentation saine et durable, et vous pouvez trouver sur leur site aussi bien des super aliments, des snacks ou encore les meilleures purées d'oléagineux que j'ai la chance de goûter, mention spéciale pour la purée de cacahuètes crunchy. Et ce qui est particulièrement cool dans la démarche de Koro, c'est qu'au-delà de proposer une très large gamme de produits naturels, dont la majorité sont vegan et bio, leurs engagements se traduisent aussi dans la façon dont ils ont imaginé la marque. Ils proposent d'acheter en gros, dans des grands emballages pratiques et minimalistes, ce qui permet de vous proposer les prix les plus justes possibles. Autant vous dire que j'ai fait la razzia au bureau, on est venu remplir le bar à céréales avec les crispies au chocolat et le granola crunchy. Et ce qui est génial, c'est que quel que soit votre régime alimentaire, vous pourrez trouver votre bonheur. Et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, on vous offre avec Koro moins 5% de remise sur votre prochaine commande Koro avec le code INPOWER, INPOWER, pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.koro.fr et surtout, régalez-vous.
On s'est rapprochés, il m'a regardé, on s'est embrassé.
Non, arrête. Il nous fait rire aussi bien sur les réseaux que sur scène. Tristan Lopin est mon invité cette semaine.
Moi, j'ai jamais osé le faire. Pourquoi est-ce que toi, tu te permettrais de le faire? Mais c'est fou! Vous êtes qui vous avez envie d'être, en fait. Je suis monté sur scène la première fois, je me suis dit genre... Je me suis jamais senti autant à ma place, quoi. La prise de risque, c'est chambé. Ne pas essayer, c'est terrible.
L'humour, oui, mais avec beaucoup de profondeur, Tristan aborde dans ses spectacles les sujets de l'amour, du harcèlement ou encore de la dépression.
La première fois que tu te dis viol, il y a quand même un truc à l'intérieur qui fait... Ah, mais moi, je suis un homme de 50 ans, blanc, je sais plus où me mettre. Tant mieux, on n'est pas en train de pointer du doigt des gens, on est en train de pointer du doigt un mode de pensée. On vous dit ça, non.
Comment on se rend compte qu'on est dépendant affectif?
T'es avec lui et t'en as jamais assez de lui, en fait, quoi.
Comme de la drogue, quoi.
Cette intensité, elle va avec la même intensité d'avoir envie de crever après, en fait. 3 mois où vraiment je me réveillais tous les matins en hurlant, en pleurant, genre vraiment j'étais pas bien. Sans l'odeur de son corps, garde-la avec toi parce qu'un jour ça va se terminer.
Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Tristan Lopin. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Bienvenue sur InPower.
Eh bien, merci beaucoup.
Tristan, je le disais en arrivant, bon, je t'ai vu 2 fois. Je t'ai vu pour ton spectacle à l'Européen il y a 2 semaines. Uh-huh. Et je t'ai vu il y a 1 an et demi parce qu'on était voisins à Barcelone en vacances.
Ah là là, c'est vrai.
Improbable,
dans...
hein.
Genre dans le même immeuble.
Genre voisin de palier. Et ah, en fait, c'est mon meilleur ami qui avait loué un appart là-bas. et en fait, je t'ai vu au supermarché. Et je sais plus si c'est avec toi ou avec un de tes colocs avec qui. Mais en fait, on vous avait proposé de venir faire une soirée chez nous, quoi.
Putain, mais oui, ça me dit trop un truc.
Et voilà, bon, au final, ça ne s'est jamais fait. Mais j'ai trouvé ça très drôle.
Ah, j'adore.
C'était vraiment improbable. Nous étions voisins de palier pendant quelques jours à Barcelone. Ouais. Voilà.
Très bon.
Passé de bonnes vacances.
C'était pas mal, ouais. Ouais, c'était bien.
C'est bien pour sortir, je trouve, Barcelone.
C'est bien pour sortir, ouais, carrément. Ouais, la plage, c'est moins, elle est moins sexy, quoi.
Ouais, moins excitante. Mais donc voilà, donc nous nous connaissons sans nous connaître.
Très bien.
Je te connais un peu plus que tu ne me connais, parce que tu te livres quand même beaucoup dans ton spectacle.
Ouais.
On va en parler. Mais avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
Alors, je m'appelle Tristan Lopin, j'ai 36 ans, je suis né à Paris, et je suis... humoriste, mais j'ai le sentiment de plus raconter des histoires que d'écrire des blagues.
Quand tu dis que tu racontes des histoires, ça signifie qu'elles sont fictives ?
Ça signifie qu'elles peuvent être fictives ou pas, mais que la frontière est floue chez moi. Mmh. Et qui est complètement bipolaire, en fait, ça invente des histoires et tout. Non, mais je peux... Dans le spectacle, là, elles sont vraies.
Ouais.
Enfin, vraiment, tout est vrai. Mais sur les réseaux, le contenu que je peux faire, etc. Ou sur le précédent spectacle, il y avait un espèce de mix un peu des deux, quoi.
Il y avait du storytelling, quoi.
Il y avait un peu de storytelling, ouais.
J'ai lu que l'origine de ton dernier spectacle, c'était finalement le bilan de tes névroses. Que tu avais fait le bilan de tes névroses. C'était quoi ces névroses ?
C'était quoi ces névroses ? Déjà, c'était pendant le premier confinement, où moi, je sortais vraiment d'une période où ça allait pas du tout. Genre, vraiment, j'ai traversé une espèce de... tunnel, 3 mois où vraiment je me réveillais tous les matins en hurlant, en pleurant, genre vraiment j'étais pas bien. Et ce confinement-là est venu, donc vraiment j'étais seul chez moi, dans mon 25 mètres carrés, dans un studio. Enfin, donc vraiment il y avait vraiment ce truc de dire waouh, là tu vas être dans le dur, vénère, et on sait pas pour combien de temps en plus. Et du coup, les névroses c'était quoi ? C'était la peur de l'abandon, de la solitude, et puis l'anxiété, et puis toutes ces... Et puis tous les traumas, quoi, du passé.
Comment t'arrives à identifier tes peurs ? je trouve qu'elles sont dures à matérialiser, de se dire, en fait, j'ai peur de l'abandon. Tu sais, souvent, c'est très inconscient.
Bah, parce que déjà, j'ai fait 10 ans de thérapie. Donc, il y a quand même, au bout d'un moment...
Donc, t'as commencé à quel âge ?
À 20 ans. Ouais, jusqu'à mes 30 ans, quoi. 21, 22 peut-être, et 32, ouais.
Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer une thérapie ?
Bah, parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que je sorte. Je savais pas ce qu'il fallait que je sorte, mais je sentais que ça bouillonnait, qu'il y avait un truc, il y avait un trop-plein, et que ça finissait par un peu... j'étais en train de me noyer dedans, quoi. Et je me souviens que je me suis dit, il faut que j'avance, quoi, parce que sinon je vais patiner dedans et ça va être terrible. Ouais. Je sentais que j'étais pas confortable, quoi, dans ma tête.
Est-ce que le moment, enfin la dépression, hein, j'ai l'impression de ce que tu me décris, que tu traverses au premier confinement, c'était ta première dépression ?
Ouais, c'était avant le premier confinement, parce que pendant le premier confinement, en fait, ça allait mieux. Donc j'avais vraiment ce truc de un peu de recul. Mais c'était la première fois, ouais, c'est la première fois que vraiment j'avais ce sentiment de... Mais... c'est horrible en fait de se réveiller le matin et ouais je pleurais mais j'étais pas bien du tout quoi et je me souviens d'une fois où j'arrive chez mes parents et puis je me mets à pleurer dans les bras de ma mère mais vraiment juste je sais pas de fatigue en fait de tout et elle me dit ouais je pense que tu fais une petite dépression enfin Et puis c'était marrant parce que ma mère est quand même... on a un truc un peu comme ça, très dans l'émotion. Et l'un et l'autre, du coup, pour qu'elle, elle me dise ça, il y avait vraiment ce truc de genre « Ah ouais, ok, donc je suis vraiment pas... »
C'est pas une blague. Quand tu arrives à garder quand même la tête hors de l'eau, qu'est-ce qui fait que tu ne penses pas à mourir ?
Alors, je me suis pas... J'étais pas à ce point de... Voilà, moi, j'étais pas bien parce que je sortais de deux ruptures amoureuses, dont une qui m'a vraiment mis dans le... Dans le noir, quoi, complètement. J'ai jamais pensé à mourir. J'étais juste épuisé, je pense. Et la tête hors de l'eau, déjà, c'est mes potes, c'est ma famille. Et puis, je crois que c'est ça, simplement. Ouais. Puis je jouais, donc il y avait toujours le public, le côté il faut que je sois là, quoi. Et puis moi, je veux dire, j'ai jamais été dans ces trucs... Enfin, il y a des gens qui, d'un coup, abandonnent tout, enfin, parce que c'est trop. Et moi, je me suis toujours forcé, parfois trop, mais à essayer d'être autant que possible à la hauteur, quoi.
Donc même quand t'étais dans cette période de dépression, tu étais sur scène le soir.
Ouais.
Ça devait être dur. Ou est-ce que t'arrives à laisser... En entrant sur scène, on va dire, tes névroses
parce que sur scène, je joue un perso, quoi, quand même. Mais en plus, moi, c'était le spectacle précédent, donc c'était qui s'appelait Dépendance affective. Donc, j'avais vraiment hâte de le terminer parce que je baignais, du coup, là-dedans, chez moi, sur scène. Finalement, j'étais là, faut que je bouge, quoi.
Tu continues à y penser quand tu te produis, quoi.
Ouais. Ah ouais, complètement, ouais.
Comment on se rend compte qu'on est dépendant affectif ?
Quand l'absence de l'autre, l'absence concrète de « il n'y a personne » ou l'absence d'une personne qui se fait discrète, les non-réponses à des messages, ce genre de trucs deviennent ingérables. Enfin, moi, il y avait des moments où j'étais là, mais qu'est-ce que... Puis je me souviens, j'avais eu un amoureux avec lequel je suis resté longtemps, que j'ai quitté, mais genre, je ne sais pas combien de fois, je suis revenu... Et ce qui n'était pas bien du tout pour lui, enfin je veux dire, ça se fait pas du tout. Et c'est ce moment où on se dit, ah là là, d'un coup, quand je suis plus avec, d'un coup, je me sens, mais c'est horrible, en fait, je sers à rien, et il me manque tellement, et en fait, on n'est plus du tout objectif, quoi. C'est ce truc de genre, l'absence de l'autre, et c'est même pas l'absence de l'autre, c'est l'absence d'affection, d'amour, de regard sur soi, donc c'est quand même assez égocentrique aussi, devient insurmontable. Donc là, à un moment donné, je me suis dit, ouais, il y a un problème.
Comment tu l'as travaillé ?
Comment je l'ai travaillé ? Déjà, j'ai pas eu le choix parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé seul aussi.
Donc, tu penses qu'il faut être seul pour le travailler ?
Ouais, je pense qu'il faut être seul. Il faut accepter le fait qu'on peut être bien seul, quoi. Ouais, je pense que c'est indispensable parce que sinon, en fait, on ne cesse de juger sa valeur à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on est bien, je pense.
Ouais, et qu'on arrive à avoir une estime de soi. Mais tu vois, je trouve ça toujours assez difficile d'apprendre finalement aux gens à s'aimer. C'est pas en lisant des phrases dans la glace qu'on va y arriver, tu vois. Et j'en ai marre, moi, de lire des choses comme ça. Mais c'est vrai que concrètement, si là, tu vois, on devait conseiller des personnes qui sont en dépendance affective, qu'est-ce que toi, tu leur donnerais comme conseil d'action ou de comportement qui t'ont vraiment aidé à pas forcément complètement en sortir, mais au moins à te sentir mieux dans ta peau, à toi.
Je sais pas, il y a deux options. Soit les gens sont un peu accrochés à quelqu'un, tu sais, à l'image qu'ils ont de quelqu'un duquel ils arrivent pas à se détacher. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'aime vraiment cette personne ? Parce que en fait,
et
souvent.
Et ça, comment tu sais ?
Je pense qu'on le sait, ça va faire une phrase bateau, mais je pense qu'on le sait un peu au fait.
Je pense que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
Non, ça je suis pas sûr, parce que je pense qu'il y a des phases dans lesquelles, dans un couple, on passe toujours par des phases de doute. Enfin, je pense qu'on ne peut pas être serein tout le temps sur une relation amoureuse, parce que ça fait partie du truc, c'est qu'on aime beaucoup, il y a un jour tu l'aimes moins, et puis après ça revient. Enfin bon, on ne peut pas être tout le temps au max, sinon bah, c'est chiant en fait. Donc, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on a le sentiment que vraiment cette personne est quelqu'un qu'on aime profondément. Et quand on est seul et qu'on est dans cette quête éternelle de rencontrer quelqu'un, je pense qu'il faut aussi se dire que quand on rencontre pas quelqu'un, qui qu'on soit en fait, hein, si on rencontre pas quelqu'un, c'est, je pense qu'on n'est pas prêt à le faire en fait. C'est qu'il y a autre chose en fait. Enfin, moi j'ai des potes qui passent leur temps à chercher depuis des années. Et qui rencontrent pas de gens et à qui j'ai envie de dire parfois, on en a déjà parlé quoi, où je dis mais je pense qu'en fait c'est peut-être pas ce dont t'as envie vraiment et c'est peut-être pas ce dont t'as besoin non plus en fait, et peut-être que t'es en train de chercher chez quelqu'un d'autre un truc que tu devrais t'accorder à toi, parce que finalement quand on attend que quelqu'un d'autre nous donne quelque chose qu'on sait même pas, on sait même pas ce que c'est en plus, donc souvent c'est quand même très abstrait. Et ben quand on a le sentiment que cette personne là nous le donne, c'est une personne qui, du coup, est détentrice de quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir. Et donc, si du jour au lendemain, elle s'en va, on a toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant, bah, en fait, il peut pas partir ou elle peut pas partir. Parce que si elle part, elle m'enlève ça. Et donc, on est obligé de rester ensemble, quoi. Donc, ça fout la pression à tout le monde.
Est-ce que toi, t'as identifié ce que tu cherchais que l'autre t'apporte ?
Bah, je pense que c'était qu'on vienne. C'est pas qu'on vienne me sauver, mais tu vois, il y avait ce truc un peu de dire je veux quelqu'un qui prenne, qui m'aime assez pour prendre soin de moi et me protéger, quoi. Je pense qu'il y a un truc de protection, ouais.
Comment tu fais pour essayer de te donner cet amour-là plutôt que de l'attendre de quelqu'un d'autre maintenant ?
Je pense qu'il faut s'écouter, quoi. Beaucoup. C'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à faire, hein. Mais d'essayer de s'écouter des moments où on n'a pas envie de. C'est des trucs idiots, mais savoir dire non, déjà, moi, c'est un truc que j'apprends encore beaucoup, parce que j'ai beaucoup de mal à le faire. Savoir que, par exemple, là, je sais pas, il y a un truc de prévu, en fait, je crois que j'ai pas envie d'y aller, et c'est ok de dire que j'y vais pas, et du coup, s'écouter pour que, en fait, pour pas se mettre dans des situations où, en fait, on se met pas bien, quoi. Et s'écouter pour dire, bah, en fait, là, j'ai envie de ça, et c'est ça qui va me faire du bien, et du coup, bah, je vais le faire. Et peut-être que je vais pas blesser, mais en tout cas, je vais peut-être contrarier quelqu'un à un moment T. Et en fait, bah, en fait, les gens s'en remettent.
C'est clair.
Ou alors ils ne rappellent plus, et tant pis.
C'est que c'est des personnes que tu n'avais pas envie de voir dans ta vie sinon, quoi.
Ouais, voilà.
Qu'est-ce qui caractérise le fait que tu sois devenu humoriste ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique, en fait, dans ton enfance, le fait que tu aies choisi, finalement, d'une certaine manière, de rechercher l'approbation des autres ?
Alors, l'humour, c'était un moyen de protection, hein. C'était vraiment à un moment donné dans mon adolescence où vraiment il y avait une espèce de trop-plein de, je sais pas, d'insécurité, de manque de confiance en soi, du coup de sentiment d'agression un peu perpétuel et j'imagine de victimisation un peu, enfin pas de victimisation parce que je pense que j'ai été un peu victime aussi de plein de gens qui n'ont pas été forcément sympas et tout, mais du coup il y a un moment donné où il y a une espèce de trop-plein. Et j'ai l'impression que assez instinctivement, on cherche un moyen de se défendre. Donc chacun se défend comme il
trouve ses outils.
Exactement. Et moi, ça a été de commencer à charrier un peu les gens. En fait, d'un coup, c'est arrivé et j'ai commencé à pointer du doigt des trucs chez les uns et chez les autres. Et j'ai vu que je faisais rire. Et c'est comme ça que c'est venu. Ouais. C'était pas tellement pour chercher l'approbation des autres. Au début, c'était vraiment plus un réflexe en fait. Et c'est après, quand j'ai vu que ça fonctionnait, que je me suis dit ah ben en fait, c'est comme ça qu'on va. Je me suis pas dit concrètement comme un plan machiavélique que j'aurais mis en place.
C'est comme ça que je vais m'affirmer.
Voilà, mais je me suis rendu compte que c'était un moyen d'être apprécié des autres. Donc, quand je pense que assez naturellement, quand on trouve quelque chose qui plaît aux autres, on le perpétue pour être apprécié, hein, j'imagine.
Et t'avais pas le pendant qui vient avec le fait de faire rire, à savoir la peur, enfin la peur que ça ne fonctionne pas. Je trouve qu'il y a une pression inhérente à l'humour, vu que tu as une forme derrière de résultats à chercher, tu vois.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, moi, j'avais fait une école de cinéma et je voulais être réalisateur. J'ai fait deux courts-métrages quand j'étais en école. J'ai bossé dans le cinéma en tant que costumier. Et moi, j'avais toujours ce truc de mon Dieu, mais en fait, le cinéma, c'est tellement une entreprise pharaonique et il y a tellement de gens à faire bosser sur un projet qui serait le mien, sur une histoire que je veux raconter, à laquelle personne ne va peut-être croire. Et du coup, en fait, ça se trouve, ce projet marchera jamais ou ce film, ça va être de la merde. Et du coup, bon. Puis je me suis dit, ça va être tellement long d'arriver à faire un film que d'un coup, quand l'option de faire de l'humour s'est un peu présentée, je me suis dit, au moins, si je raconte quelque chose sur scène avec mes outils à moi, moi sur scène, mon écriture et tout, si jamais ça marche, bah, ça sera super parce que du coup, ça sera moi.
Ça dépend que de toi, quoi.
Voilà, ça dépend que de moi. Et si jamais ça marche pas, au moins, je pourrais m'en vouloir qu'à moi. Donc il y avait vraiment ce truc de me dire, bah en fait c'est quoi, on tente. Et puis moi j'avais pas le projet que ça fonctionne en fait, plus que ça. Enfin, on fait rien, on fait jamais quelque chose pour que ça foire. Je me suis pas dit, ah là là, enfin je pensais pas arriver à là où je suis aujourd'hui, quoi. Donc j'avais pas, je m'étais pas mis cette pression, voilà, je me suis juste dit, bon, je bosse à côté, j'ai un minimum garanti à payer, il faut quand même qu'on remplisse un peu la salle, mais bon, j'étais pas en mode, voilà. Bon, assez rapidement, je me suis mis dans ce mode-là quand même.
Parce que finalement, oui, c'était plus le fait de vouloir être indépendant,
ouais, voilà.
et responsable de ta réussite ou de ton échec,
ouais, me que dépendre des autres. Prouver à moi que je pouvais arriver seul, en fait. Mmh. Je pense qu'avant de faire confiance, de me faire confiance avec les autres, il fallait que je me prouve que j'étais capable, moi, tout seul. Et en vrai, monter un projet seul, le mettre en place, le défendre et essayer de gagner de l'argent avec, c'est un vrai challenge. Hein.
Et qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu as été attiré à la fin de ton lycée, plus par le monde du cinéma, où finalement, en effet, c'est beaucoup de jeux de rôle, que par l'humour ou le stand-up qui se base quand même beaucoup plus sur du vrai, j'ai l'impression, sur ce qui nous arrive.
Mais je pense que le cinéma aussi, enfin, dans ma perception en tout cas, mais moi j'ai voulu faire du cinéma quand j'étais tout petit, vraiment tout tout petit. Depuis toujours j'ai voulu faire du cinéma, réaliser des films, etc. Parce que moi j'étais un garçon très timide quand j'étais petit, vraiment assez maladif, quoi. Et j'avais le sentiment, c'est ce que j'ai dans le spectacle, que quand mes parents m'emmenaient voir au cinéma, il y avait cette espèce de lien avec des personnages que je rencontrais pas dans au quotidien dans ma vie. Et puis mes parents, moi, c'est des gens qui nous emmenaient beaucoup de voir des films. Enfin, tu vois, moi, c'est les premiers qui m'ont emmené voir des films iraniens, enfin sur la condition des femmes. Enfin, justement pour avoir cette espèce d'ouverture vers un monde qu'on côtoyait pas au quotidien, pour nous dire en fait, vous vivez dans une espèce de bulle quand même un peu. Ayez conscience que dans le monde dans lequel on vit, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, quoi. Et du coup, moi j'avais le sentiment que ça créait toujours un lien avec des gens que j'aurais jamais pu rencontrer. Et moi, qui étais très timide, qui avait du mal à communiquer avec les autres, je me suis dit, mais c'est fou parce que le cinéma, ça permet de rencontrer des gens qu'on rencontrerait jamais en fait au quotidien. Et moi, j'avais l'impression que personne n'arrivait à me rencontrer, à savoir qui j'étais. Et du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais si j'écris des films, si je réalise des films, et ben en fait, ça va permettre de créer du lien avec ces gens-là, avec lesquels je n'arrive pas à communiquer, quoi.
Comment l'opportunité se présente ? Tu me parlais d'opportunité tout à l'heure pour faire de l'humour.
J'étais sur un court-métrage qui s'appelait Chômage affectif, sur lequel j'étais costumier et dans lequel jouait Bérangère Krief. C'était avant qu'elle joue dans Bref, et elle a lu des chroniques que j'écrivais pour un blog de potes. Et elle m'a dit, mais ah, tu devrais trop monter sur scène, je trouve ça t'irait bien et tout. Et puis l'idée a un peu germé, et puis c'est comme ça que ça. Enfin, c'est comme ça. J'ai commencé à écrire un peu en me disant qu'est-ce que je pourrais faire, et puis voilà quoi.
T'es passé à New York, je crois, en étant costumier.
Ouais.
C'était comment ? T'es resté combien de temps et c'était qu'est-ce que ça t'a appris ?
Je suis resté un an à New York, en fait, dans le cadre de mes études de ciné. Donc j'ai eu des cours pendant 6 mois avec des profs de la NYU et de la Columbia University. Et après, j'ai bossé sur des courts-métrages et sur un long-métrage où j'étais costumier, un peu accessoiriste aussi. Enfin, bon, on était stagiaire, donc voilà. on touchait à tout avec Emma Roberts et Freddie Highmore.
Énorme. Elle est comment, Emma Roberts ?
C'était drôle parce que c'était le début de Emma Roberts. Enfin, moi, je savais même pas qui c'était. Ouais. Je veux dire, elle avait pas fait les Scream. Enfin, bon.
C'est Wild Child, ma ref.
Ouais. Voilà, aussi.
Je sais pas si elle avait déjà fait.
Je sais pas. Mais moi, je la connaissais pas. Enfin,
ouais, ouais.
Et j'avais même pas la ref que c'était la nièce de Julia Roberts.
Mmh.
Je l'ai appris sur le tournage. En vrai, elle était pas très sympa.
Ok.
Mais Je me demande si c'était le début de sa carrière aussi, donc j'imagine qu'il y a un petit côté où d'un coup tu commences à péter un peu plus haut de ton cul, j'imagine. Puis elle avait ce truc que je me souviens qui était très drôle, c'est qu'elle fumait des clopes de manière assez compulsive entre deux scènes, quoi. Et puis je la voyais et en fait elle crapotait. Tu sais, c'est comme les meufs au lycée qui fument à balle en mode genre... Mais qui, en fait, elle admet, tu tires pas, en fait. C'est juste pour te donner une espèce d'attitude. Et elle la fumait à balle, mais on sentait qu'elle fumait vraiment. Et tu sais, elle l'écrasait en mode genre, oh, tu vois, genre, waouh, ma vie, elle est trop intense, quoi. Et du coup, j'étais un peu là, genre, ouais, donc elle est.
Anxiété plus plus, quoi.
Anxiété plus plus, ouais. Ou un peu pour se donner un style, ouais, voilà. Ouais. Mais bon, donc j'en sais rien. Moi, je la trouvais pas hyper sympathique, mais après, c'était le début, elle était hyper jeune. Je sais même pas quel âge elle a, mais je crois qu'elle est plus jeune que moi.
Écoute, elle doit être à peu près, ouais, 34-35. Ouais. Tu sais, c'est marrant, il y a des gens comme ça, c'est ça que l'habit ne fait pas le moine, c'est quand même une vraie expression. C'est que je trouve qu'elle a une gueule d'ange, tu lui donnerais franchement le bon Dieu sans confession et tout. Et d'un autre côté, ça m'étonne pas que peut-être.
Mais ça se trouve, elle est adorable, hein, je veux dire. Moi, je l'ai vu. Et du coup, si tu dis ça, c'est-à-dire qu'elle avait 20 ans. À 20 ans, quand tu commences à faire des films, j'imagine qu'à un moment donné, tu peux être un peu bête, quoi.
Ouais, ouais.
Donc voilà.
Mais du coup, ça t'a donné envie de rester ou pas?
Alors, j'aurais bien aimé rester, mais en fait, moi, on avait un visa de 1 an, parce que c'était un visa étudiant, etc. Et puis en plus, moi, du coup, j'avais rencontré une nana sur place, qui était costumière en France et qui m'a proposé de revenir en France pour bosser sur un film en tant que costumier avec Tahar Rahim. Donc forcément, je suis rentré au mois de juin pour bosser sur ce film.
Ok.
Tout l'été.
Et t'étais épanouie à ce moment-là ou pas? Est-ce qu'il y avait un sentiment quand même de j'ai envie d'autre chose pour que tu bifurques finalement sur la scène?
À New York, les premières semaines c'était compliqué parce que quand même décalage horaire, j'étais quand même très très loin de chez moi, donc il y a vraiment ce truc de genre. Au bout de quelques semaines, c'était fou parce que et puis moi j'ai fait un stage chez Marie Claire. Dans une espèce de dans la tour diamant au-dessus de Central Park.
En fait, t'étais dans le Diable en Prada.
J'étais dans le Diable en Prada. J'allais sur les shootings où il y avait Sex and the City 2 qui était en promo. Donc, moi, j'allais là-bas, mais j'étais là, mais. Et puis, c'était l'année où ils avaient sorti Empire State of Mind de Alicia Keys et Jay-Z. Ouais. Donc, moi, je l'écoutais en sortant du taf. Enfin, vraiment, j'étais là, mais en fait, ma vie, c'est juste.
Un film.
C'est un film,
j'en
quoi.
Fais, mais finalement, j'en vis aussi,
ouais,
quoi.
C'était génial. Donc vraiment, j'étais refait. Quand je suis rentré, le tournage du film, ça s'est bien passé, mais je sentais que, tu sais, il y avait vraiment ce truc de sentiment de pas être à sa place tout à fait, ou de pas se sentir légitime. Et du coup, j'étais pas, c'était à la fois chouette et en même temps, j'étais un peu à, je sais pas. Mmh. Et donc, non, je pense que j'étais pas tout à fait serein. C'est arrivé après, quand je montais sur scène la première fois, où je me suis dit genre, c'est une espèce d'angoisse de l'enfer, j'ai envie de crever, mais n'empêche que je me suis jamais senti autant à ma place, quoi.
Ah ouais, dès la première fois, t'as eu ce sentiment.
Ouais, et vraiment, je me suis senti rarement à ma place dans ma vie.
Ok, pourquoi?
Avoir le sentiment de pas rentrer dans les cases, de pas être... d'être toujours un peu à côté, quoi. Et puis surtout quand on est plus jeune, enfant ou ado, on est quand même déjà rarement au bon endroit, au bon moment, hein. Et moi, je le sentais que j'avais vraiment ce truc quand j'étais petit, de me dire ton enveloppe corporelle n'est pas en adéquation avec la personne que tu es à l'intérieur. J'avais vraiment ce truc de, en fait, t'es une personne plus âgée que celle que tu
les
es
gens
physiquement,
voient.
Crois. Ouais.
Ok. T'as toujours eu ce sentiment d'être.
Ouais, j'ai toujours eu ce sentiment de me dire, bah, dans ta tête, t'es à un autre endroit, et en fait, faut juste que t'attendes, et à un moment donné, tu vas voir, les deux vont se connecter, et ça va être super.
Et ça s'est passé?
Et ça s'est passé, ouais.
Quand?
Regardez-moi. ça s'est passé quand? Ça s'est passé... j'ai l'impression que ça se passe de plus en plus. Enfin, j'ai l'impression d'être de plus en plus en phase avec, avec moi. Mais j'imagine que ça a commencé à se faire à partir du moment où ouais, j'ai commencé à monter sur scène, ouais.
Est-ce que tu sais ou tu identifies la fois où ce sentiment de décalage et d'inadéquation a été le plus fort dans ta vie?
Je pense que c'était... j'imagine avec des enfants de mon âge quand j'étais vraiment plus jeune à l'école où du coup bon il y avait ce sentiment où moi j'étais un peu pointé du doigt parce que du coup les gens j'étais un peu différent et du coup c'est des moments où on sent que on n'a pas la même la même charge émotionnelle ou déjà en fait moi j'étais dans une remise en question perpétuelle de voir que j'étais pas vraiment le petit garçon comme tout le monde etc. donc c'est des enfants Et j'étais un enfant, mais du coup, il y en a plein qui existent aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis, pour que les gens puissent s'identifier. C'est des gens, des enfants qui, de fait, de par la société, sont obligés de se remettre en question, sans savoir qu'ils sont en train de se mettre en question. Mais du coup, il y a un cheminement psychologique qui se fait, qui, d'un coup, on avance plus vite, en fait, sur plein de questions. Ce qui fait qu'on est des gens plus déconstruits, j'ai l'impression, plus rapidement.
Quand tu parles de ces enfants, tu parles de qui?
Bah, je parle, je sais pas, d'enfants qui sont pointés du doigt pour mille raisons, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui a un enfant qui est en surpoids, un enfant qui est trop maigre, donc ça rassemble beaucoup d'enfants, mais un enfant qui serait un peu maniéré, un peu efféminé, comme j'aime pas qu'on le dise, mais comme on l'a dit pendant longtemps, les enfants qui sont pointés du doigt. Souvent, c'est des enfants qui sont obligés de se construire différemment, plus vite, et d'essayer de trouver des ressources intérieures pour avancer, plutôt que de s'enfoncer dans « je suis qu'une merde, en fait ». Donc j'ai l'impression que ouais, c'est des gens qui avancent plus vite et qui sont aujourd'hui les porte-drapeaux de ce wokisme qui fait peur à tout le monde.
Qu'est-ce que ça t'a donné comme ressource intérieure ?
Bah la ressource de en fait il faut jamais lâcher, on peut jamais lâcher. J'ai eu des phases quand j'étais petit où ça allait pas, quoi. J'étais pas très heureux, je pouvais avoir des idées un peu noires et tout, et du coup on est obligé de dire bah non, en fait il faut continuer, faut avancer, parce que je sais qu'il y aura autre chose après. Mais bon, autre chose après, quand on sait pas ce qui va se passer, et puis même quand on commence à se lancer dans des projets qui sont des projets quand même qui sont en plus très étrangers à l'éducation que j'ai pu avoir, moi, au code dans lesquels j'ai pu être éduqué, à un moment donné, il faut quand même avoir une force de persuasion assez forte, quoi. Donc je pense que ça m'a donné ce truc de dire quoi qu'il arrive aujourd'hui, je peux pas lâcher, parce que si je vais pas au bout, je saurais pas si ça peut marcher ou pas, et il faut aller au bout de tout, quoi.
C'est marrant parce que quand j'y réfléchis, je me dis, quand on est enfant, notre but ultime, c'est d'être conforme, d'être le plus conforme possible. Et finalement, ce qui fait le succès ou l'épanouissement des adultes et le fait qu'ils soient admirés, c'est leur non-conformité. Tu vois, c'est, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu rêves d'une vie conforme, tu vois? Personne.
C'est juste que les gens, j'ai l'impression, ont vachement peur de sortir de cette conformité, parce qu'il y a un truc de regarder des gens, de la société, et d'un coup, c'est genre là, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, il y a ce truc aussi de... Les gens se sont tellement forcés à être conformes à ce qu'on attendait d'eux, de ce que la société avait mis en place, machin, que maintenant, dès que quelqu'un sort un peu ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui les pointent du doigt en disant « Ah là là, mais moi, j'ai jamais osé le faire. Pourquoi est-ce que toi, tu te permettrais de le faire ?» Tu vois, dans plein de gens autour de moi, des gens plus âgés, des oncles, des tantes, t'as toujours ce truc de dire « Ouais, mais moi, en fait, on a tout fait comme on attendait de nous de le faire. » Je sais pas ce que je viens de dire en français, mais je me suis compris. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu t'accorderais le droit de faire différemment ? Et en fait, on arrive dans ce truc, finalement, où les gens, dans cette espèce d'espace safe, j'ai l'impression, où les gens finissent par se permettre d'être qui ils ont envie d'être, d'avoir les codes, les relations amoureuses qu'ils ont envie d'avoir, et les fonctionnements qui leur sont propres, en fait. Donc ça, j'ai l'impression que ça a dérangé pas mal de gens, la génération du dessus, manifestement, tous les gens qui sont un peu frileux de voir les gens se libérer de tout et ne plus être victimes de codes qu'on leur a imposés. Et même ce dont tu disais, de les enfants sont plus tranquilles quand ils sont conformes, enfin les enfants sont plus conformes. J'ai l'impression que moi je le vois quand même dans mes nièces, bon, qui sont éduquées par mes sœurs, donc qui sont quand même des filles qui sont pas idiotes, etc. J'ai l'impression que les enfants qui sont pas tout à fait conformes, qui sortent un peu des cases, qui sont des enfants plus sensibles, plus anxieux, donc moins des enfants comme on a envie de les voir, qui courent partout et qui sont là, ah là là, c'est tellement sympa, machin. Et ben, j'ai l'impression que c'est des enfants qui sont aussi, qui font la différence aussi, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a, il y a plus ce truc de dire, ah là là, cet enfant-là, il est un peu à côté. J'imagine qu'il y a des cercles socioculturels dans lesquels c'est encore le cas, malheureusement. Mais moi, j'ai l'impression que, en tout cas, chez moi, et j'espère y être un peu pour quelque chose, de par mon travail et ce que je fais, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bouge quand même.
Qu'est-ce que tu t'es pas autorisé pendant longtemps ?
Je commence par quoi ?
Tant que tu les dis tous, tu choisis.
Non, je pense que le truc que je me suis pas autorisé, c'est à être heureux, peut-être. Ouais.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que beaucoup les barrières qu'on nous impose, le fait de vouloir être irréprochable, comme j'en parle dans le spectacle. Donc ce truc de dire non, mais ça j'ai pas le droit de le faire parce que ça correspond pas aux attentes qu'on peut avoir de moi. Je sais pas, moi c'est beaucoup passé par exemple par mes relations amoureuses. J'ai souvent pu être en couple avec des garçons où je sentais que ça allait pas, mais il avait rencontré ma famille. Tu vois, mes nièces, du coup tu te dis tu vois, du coup est-ce que je dis maintenant du coup c'est fini, donc d'un coup faut expliquer à mes nièces que on n'est plus ensemble, pourquoi vous vous aimez plus, si, mais en fait c'est compliqué, enfin il y a ce truc aussi de dire mais est-ce que du coup je peux quitter ce mec là avec lequel je suis depuis 5 ans, que tout le monde connaît et puis les gens l'aiment bien en fait,
le confort c'est l'ennemi du bonheur potentiellement.
Ouais, et puis c'est pas tellement le confort, parce que quand on sent qu'on aime plus vraiment quelqu'un ou qu'on n'est pas vraiment en phase avec la personne, c'est pas du confort, c'est du confort social. Ça fait bien de venir avec lui à Noël, et puis c'est toujours un peu sympa, puis les petites, elles l'aiment bien, donc voilà. Et puis à un moment donné où j'ai lâché le truc en fait, où j'ai dit non. Et puis j'ai quitté tout le monde. Et puis je me suis mis avec un mec qui était tout ce que j'avais refusé d'être, quoi. Et puis qui m'a mis dans un espèce de tunnel.
C'est lui.
Ouais.
Pourquoi ça s'est terminé si c'est pas indiscret ? Je crois que t'en parles, non ? T'en parles sur scène.
Je dis pas pourquoi ça s'est terminé.
Mais tu vas nous le dire à nous.
Je vais vous le dire à vous. Non, en fait, je l'ai rencontré alors que j'étais en train de me séparer d'un garçon avec lequel j'avais passé un peu de temps et qui allait pas bien du tout, et donc je m'étais beaucoup occupé en fait. Et voilà, moi c'est un truc que j'ai beaucoup fait, c'est de m'occuper des gens.
Victime bourreau sauveur.
Ouais, complètement. Et du coup je l'ai quitté et j'ai rencontré ce mec là qui était une espèce de un courant d'air. C'est vraiment ça. Et je me souviens très bien la première fois que je l'ai vu de dos. Et on arrivait en soirée avec des potes, et je vois ce mec de dos, et je dis à mon pote avec lequel j'étais, mais en fait, lui, il va se passer un truc. Je saurais pas te dire. Il y a un truc dont on parle qui s'appelle un truc qui est complètement chimique, en fait, avec les gens. Et ce mec-là, vraiment, je l'ai vu. On s'est rapprochés, il m'a regardé, on s'est embrassé.
Non. Mais arrête. Mais vous étiez même pas dit.
Non.
Je m'appelle.
Non.
Ah ouais? Allez, un jour, il faut que tu fasses un film dessus, là, parce que...
ouais, et c'était complètement fou, en fait. Et puis, je rentre chez moi, il me demande mon numéro, je me souviens, il m'a dit, déjà un peu toxique, il me dit, tu prends pas mon numéro. Je dis, si tu veux, tu prends mon numéro. Et en fait, et je rentre chez moi, et puis il m'écrit, et puis, je sais pas, à 6h du mat', quand il rentrait de la soirée et tout. Et puis, je me retrouve à 6h30 dans un taxi pour aller voir ce mec-là. Et on baise, mais genre, meuf, mais... Et en fait, on a passé 3 mois, et c'était ça que je cherchais, en fait. C'était ce truc de ce mec qui fait la teuf, avec lequel tu rentres de soirée, il est 5h du mat, tu fumes un gros pétard, et tu baises pendant 2 heures, et tu rentres et en fait, tu te couches, il est 8h du mat. Et en fait, tout ce que je m'étais interdit, tu vois, on va faire la teuf, et en fait, on s'en fout du regard des autres. Et je me souviens d'un jour où j'étais arrivé au baptême de ma nièce, à 10h du mat, et j'étais déchiré. Je sais pas, je devais sortir le cul. Enfin, et j'étais là, mais en fait, c'est tellement bien. Genre, j'étais là, tu vois, c'était génial. Et en même temps, c'était une espèce de passion qui était en train de me flinguer, quoi. Tu vois, c'est vraiment le genre de truc, tu te dis, non, mais tu fais ça 3 mois, et puis après, tu vas dormir pendant 2 ans, en fait. et puis, ça s'est arrêté, et puis c'est là où j'ai commencé mon tunnel de me réveiller tous les matins en mode, genre, mais j'étais tellement vivant, et c'était tellement... Mais tu sais, c'est des gens, même à posteriori, quand j'ai pu le revoir, c'est des gens où quand tu parles de ce moment-là, tu sais qu'en fait, c'était...
Une parenthèse.
C'était une parenthèse, et puis c'était trop, en fait. Trop de...
Comme de la drogue, quoi.
Ouais.
Enfin, là, de ce que tu me décris, c'est l'effet de high, puis de down.
C'est des gens... t'es avec lui et t'en as jamais assez de lui, en fait, quoi. Tu vois, et moi, je me souviens très bien de ce moment où je suis contre lui en train de... je sais pas, après avoir fait l'amour, j'en sais rien, machin. Et de me dire, sans l'odeur de son corps, garde-la avec toi parce qu'un jour ça va se terminer. Et c'est le seul mec de toute ma vie avec lequel j'ai dormi, tu sais, en koala, genre en cuillère, petite cuillère, machin et tout. Avec ce truc, et je me souviens la dernière nuit qu'on a passé ensemble, parce qu'il est parti, après il est revenu évidemment, machin, et puis un jour je lui dis, vas-y, c'est notre dernière nuit. Et puis cette dernière nuit où tu te... Ah là, et où il part, et où tu te dis, ok, bon, c'est fini.
Et comment tu fais pour ne pas rechercher après cette même, ce même sentiment de vivre?
Ah,
cette
bah
même
parce
intensité,
que
quoi.
Cette intensité, elle va avec la même intensité d'avoir envie de crever après, en fait. Mmh. Et qu'il y a un moment donné où je peux pas passer ma vie à osciller entre je vis à 6000% et j'ai envie de crever à 7000. Enfin, en fait.
Faut que le ratio soit positif.
Ouais, faut qu'à un moment donné, faut qu'il y ait un espèce d'équilibre qui se fasse quand même. Tu vois, autant je veux bien qu'on soit pas toujours là. Mais tu peux pas être là, là, enfin, tu vois. Et je me souviens très bien quand j'étais dans le noir comme ça, je me souviens vraiment de mon père, en vrai, qui me dit, mais en fait, tu sortais à peine de cette histoire qui t'avait déjà amené à des sommets de bad, machin. Tu redescends à peine, tu te mets à 20 étages plus haut, en fait. Donc il dit, bien, à un moment donné, en fait, il faut que tu...
À un moment, tu pourras pas toucher le plus
ouais,
ciel.
Ouais, à un moment donné, tu vas te mettre en danger, quoi.
Est-ce que, du coup, t'as le sentiment de devoir te satisfaire de moins que tes attentes? Enfin, que tu dois, d'une certaine manière, sacrifier tes exigences, tes attentes?
Non, c'est pas ça. Je pense que c'est juste que si je devais vivre aussi intensément que j'aimerais vivre, je pense que je me brûlerais les ailes, en fait. Donc, je dirais que c'est une forme de sagesse, quoi, ouais. De dire, bah, en fait, certes, ça te créerait plein de spectacles et plein d'anecdotes et tout, mais à un moment donné, en fait, c'est des choses qui mettent vraiment en danger. Je trouve, même psychologiquement, la santé mentale, elle prend un coup.
Est-ce que tu penses qu'il faut souffrir pour être inspiré?
Dans moi, ce qui me touche, dans l'humour, etc., ouais, je trouve toujours plus pertinent les gens qui ont quelque chose à raconter.
Il y a quelque chose à raconter, c'est forcément de la souffrance?
Bah, moi, c'est ce qui me parle, en fait. Enfin, c'est pas de la souffrance, mais en tout cas, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui t'a fait changer, qui montre une évolution, un truc qui t'a bousculé. Enfin, bon, il y a des gens qui racontent très bien des pique-niques au parc ou des visites chez le roi Merlin. Ça peut être très drôle. Enfin, moi, c'est pas le truc qui me fait rire. Enfin, à un moment donné, je suis là, bon... Je sais pas, t'as pas un truc à raconter. Tu vois, c'est comme un film. Il y a des films comme ça où tu te dis, bon, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui adorent aller voir ces films-là et tout. Ce qui veut pas dire que. Enfin, voilà, moi, si ça raconte pas un truc.
Tu préfères ne plus souffrir, mais du coup, ne plus monter sur scène? Ou souffrir pour le reste de ta vie, en tout cas connaître des vraies phases de souffrance, et du coup, de continuer à monter sur scène pour en parler? J'adore les tu préfères.
Mais je
parce
pense
qu'en
que
plus, t'as
c'est...
souffert, quoi. T'as douillé, donc tu sais ouais. Ce que c'est, quoi.
Je pense que c'est inévitable, de toute façon. La vie, et je crois qu'on est condamné à ce qu'elle soit source de beaucoup de souffrance, quoi. Non, je pense qu'il faut souffrir. Il faut souffrir, non, il faut pas souffrir. Mais je pense que je préfère souffrir un peu et... Je sais pas, c'est bizarre, parce que souffrir pour être sur scène, non. Je pense juste que c'est inévitable, en fait, et qu'on est... On se sent vivant aussi, juste parce qu'on...
On a connu l'inverse.
Aussi. Enfin, tu vois, c'est comme les histoires d'amour. On est très amoureux de quelqu'un parce qu'à un moment donné, il nous a fait aussi... On s'est fait souffrir. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui te diront, ah, dans notre histoire, on a passé 50 ans ensemble. Et en fait, on s'est mis la misère, mais au final, aujourd'hui, on est ensemble et c'est super. Et tu vois, on a traversé ça ensemble. Donc, je pense qu'on n'a rien sans rien. Enfin, je pense qu'il faut avoir beaucoup de souffrance pour avoir beaucoup de bonheur. Tu vois,
l'amour a l'air de tenir une place très importante dans ta vie.
Ouais.
Je vais te poser une question et j'espère que ce sera pas mal interprété parce que je sais que je manque cruellement de tact. Mais donc, c'est vraiment une question, tu vois, que je me pose. Avec les injonctions qu'il y a aujourd'hui à être marié, à fonder une famille, à un certain âge, est-ce que toi, tu ressens cette pression? Et est-ce que, avec les histoires que tu as eues précédemment, tu as la peur de potentiellement jamais trouver la personne avec qui tu veux passer ta vie?
Complètement, ouais. Enfin, je me dis toujours, j'ai toujours la peur que les choses se terminent, ouais. Enfin, la peur. Oui, le fait de me dire, mais en fait, comment est-ce que... C'est juste que je pense qu'on a... Je trouve qu'on n'a pas les clés. On nous a jamais dit comment ça fonctionnait de faire fonctionner un couple sur le long, long terme, tu vois. Donc oui, moi, j'ai toujours ce truc de dire, mais en fait, à quel moment je peux aimer quelqu'un assez pour que ça me satisfasse durant 40 ans. Donc, c'est quoi le secret? Donc, j'en sais rien, il y a des gens qui, par exemple, ouvrent leur couple pour se donner la porte de la possibilité de vivre d'autres choses et qui reviennent chez eux. Moi, je trouve ça super. Après, moi, je peux tomber amoureux comme je tombe d'une chaise, en fait. Donc, c'est aussi me laisser la porte ouverte à potentiellement rencontrer quelqu'un d'autre et vouloir avoir envie de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être la longévité de l'amour, comment on entretient la, peut-être pas la passion, parce que je pense que la passion c'est pas le bon terme, mais en tout cas comment on entretient la flamme, je pense que c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu et qui est un vrai sujet. Et le truc des enfants, oui, c'est forcément une pression, parce que du coup moi dans l'absolu j'aimerais bien en avoir, encore que je me pose la question maintenant à un moment où je me dis que peut-être ça serait le moment de passer le cap, pourquoi pas. Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie? Est-ce que c'est une question que je me pose parce que c'est la société qui m'a dit qu'à un moment donné où tu pouvais pas vivre juste pour toi, parce que c'est hyper égoïste? Et est-ce que j'ai envie de faire un enfant d'avoir un enfant dans le monde dans lequel on est? Enfin, waouh! Genre, quand même, il y a des trucs où tu te dis, c'est chaud, quoi. Donc, il y a plein de questions comme ça qui se mettent les unes sur les autres. Et sur lesquels j'essaie de déconstruire un peu le modèle dans lequel j'ai été éduqué. Donc de me dire, parce que tu avais toujours ce truc de dire, mais en fait, faire un enfant pour te séparer de quelqu'un, parce qu'en fait, l'idée, potentiellement, elle est là, la question. Donc moi, déjà, quand je me mets avec quelqu'un, à chaque fois, je me dis, mais ça se trouve, on va se quitter. Du coup, est-ce qu'on n'arrêterait pas maintenant, en fait, plutôt que de se séparer dans 6 ans et que ça soit horrible? Donc, si tu veux, moi, je pourrais très bien reculer devant tout, juste par peur que les choses se passent pas comme j'ai envie qu'elles se passent. Donc, j'essaie maintenant de déconstruire ce truc de ne pas faire les choses juste par peur que ça se passe pas comme j'ai envie que ça se passe, quoi.
Donc, t'es quelqu'un qui a beaucoup d'attentes, de ce que je comprends, de ce que tu me dis.
Ouais, bien sûr, ouais. Mais parce que je suis très exigeant avec moi-même. Bon, ça, c'est vraiment une phrase de connard.
Mais, je suis perfectionniste.
Ouais. Non, mais c'est vrai que je suis très exigeant avec moi-même, mais je suis très exigeant envers moi-même, envers les autres. Donc, je demande beaucoup de... Tu vois, je me dis toujours, mais je peux pas faire ça, il faut que j'aille là-bas parce que ça fera plaisir à cette personne-là. Il faut que je fasse ça parce que c'est important pour elle. Donc, j'essaie de me mettre beaucoup à la place des autres. Donc, de fait... Je suis très exigeant envers les autres aussi, quoi. Voilà, ce qui est pas une bonne idée d'être aussi exigeant envers soi-même, parce que je pense qu'on se met une pression folle. Donc je dis pas que c'est la clé.
Non, mais bon, c'est aussi ça, je pense, qui explique aussi une grande partie de là où t'es aujourd'hui.
Oui, sans doute. De toute façon,
on a souvent tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Tu vois.
Ouais, ouais. C'est... Chacun est à la place qu'il a bien voulu se faire.
Ouais, hein, ouais, c'est donc, clair. Mais du coup, t'as pas déconstruit. Tu vois, moi, je me demande pourquoi on n'est pas on déconstruit pas plus activement le mythe, finalement, du prince charmant, hein, de... Il y a une personne à qui on va passer notre vie. Je me demande, quand tu regardes quand même le taux de divorce aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas arrivé, et on peut le déplorer, hein, mais à un moment, il faut bien agir, est-ce qu'on n'est pas arrivé dans une société où, finalement, ce schéma-là ne fait plus sens? Est-ce qu'on n'est pas fait pour avoir... Tu vois, on est finalement à partir de fin de la vingtaine, début de la trentaine, peut-être même avant, à la recherche sans cesse de la bonne personne. Et je pense que finalement, ça nous dessert plus que ça nous sert, parce que peut-être qu'on a juste des phases de vie où on a besoin d'être avec tel type de personne, et puis en fait, tel autre après. Et...
Ouais, peut-être, très certainement. Moi, c'est quelque chose sur... Enfin oui, c'est une question... Enfin, c'est les modèles dans lesquels on nous a mis, enfin, dans lesquels on a voulu... On a voulu nous inculquer, en tout cas. C'est des choses auxquelles j'essaie de penser, ouais, de remettre en perspective, parce que moi, c'est un truc qui m'a quand même vraiment flingué sur rencontrer quelqu'un, que ce soit la bonne personne. Enfin, moi, mes parents, ça fait 45 piges qu'ils sont ensemble. Et du coup, moi, il y a un moment où j'ai dit à mes parents, je me souviens, mais en fait, moi, je vous ai jamais vu vous engueuler plus que ça.
Ah ouais?
Non. Je sais qu'il y a des moments où je vois que vous vous agacez et tout machin. Mais je veux dire, pour moi, un couple, c'était toujours, on est toujours sûr que ça va, en fait. Alors qu'en fait, faites pas les mythos. J'imagine qu'il y a des jours où vous vous êtes dit, putain, est-ce que je me barrerais pas, en fait? Et ce qui est normal, en fait. Mais moi, on me l'a tellement pas dit Et j'ai tellement vécu avec ces putains de princesses de merde là, qui disent waouh, lui j'ai trouvé, c'est bon, c'est lui. Que moi, quand mon premier mec il m'a quitté, j'étais là en mode, du coup en fait c'est quoi le mode d'emploi là? Parce que moi je sais plus où je suis. Donc aujourd'hui ouais, je me dis qu'il y a un truc à remettre en question, ouais, de savoir comment est-ce qu'on fait pour vivre avec quelqu'un longtemps. Ou pour accepter que, je sais pas, on est peut-être pas fait pour vivre avec la même personne tout le temps et qu'on change, en fait, de gens. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, moi, j'en parle pas mal avec des potes autour de moi qui me disent « Ah bah, nous, on a ouvert notre couple. Nous, on est en couple libre. » Alors, il y a un nombre de facettes. Moi, je m'y perds un peu. Et puis, je pense que avant de faire ça, il faut aussi déconstruire. Il y a un truc beaucoup d'ego là-dedans, hein, dans les relations amoureuses. Le fait d'aimer quelqu'un, d'être aimé de quelqu'un, il y a un truc de... Il faut que cette personne me remplisse entièrement et que je sois complètement la seule personne suffisante à son bonheur. C'est très égoïste, égocentrique tout ça. Donc moi j'avoue que pour l'instant je suis pas dans la phase où je me dis que je pourrais me dire que mon mec va voir d'autres garçons, tombe amoureux d'autres personnes. Je suis pas là, mais j'y pense.
Ouais, non, mais but, surtout, t'as pas à l'être. Tu vois, si t'as pas envie.
Et d'ailleurs, au final, peut-être que je sortirai jamais de ce truc-là et qu'en fait, je me dirais, bah, je suis comme ça et voilà. Mais en tout cas, je fais l'effort de poser la question, ouais, et d'essayer de voir le prisme de l'autre côté, quoi.
Comment le Tristan qui datait à 20 ans a changé du Tristan d'aujourd'hui? Comment toi, t'as changé dans la relation que tu as?
Bah, déjà, le fait d'être un peu connu change quand même, clairement, la manière d'appréhender les rencontres.
Et comment ça a changé?
Bah, comment ça a changé?
Asking for a friend.
Parce qu'il y a des gens dont tu sais que c'est... Il y a des gens dont tu sens qu'ils sont là parce que c'est toi et... Enfin, parce que c'est toi, oui, j'espère que les gens sont là parce que c'est toi, sinon c'est très triste. Mais qui sont là plus par curiosité de savoir, j'imagine, de... j'ai couché avec machin, tu vois, on le sait.
Ouais.
Tu vois, que les gens, certainement... ils doivent dire, ah, j'ai couché avec des gens qui sont très connus ou moins connus, mais qui sont connus pour leur cercle d'amis ou quoi. Ah bon, c'était comment? Tu vois, je sais pas, elle a des gros seins, il a une grosse bite. Enfin, tu vois, les gens, ils sont, je le sais.
Ouais.
Enfin, j'imagine, moi, je ferais certainement pareil. Tu vois, de demander à quelqu'un, t'as couché avec machin, voilà. Donc, il y a toujours ce truc un peu où tu te dis, bon, je fais un peu gaffe, quoi.
Ouais.
Après, j'ai l'impression de le sentir un peu rapidement, donc ça va. Mais, et puis de manière générale, j'ai changé ma manière d'appréhender les choses parce que il y a une espèce de sagesse aussi, quoi. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un truc de dire, je me sens pas obligé d'être avec quelqu'un en fait, tu vois. Ce qui fait que même quand t'es avec quelqu'un, t'as aussi toujours ce truc qui est assez serein de dire, en fait, si je reste avec, c'est un choix que je fais. Tu vois, c'est pas si jamais je suis plus avec lui, ça va être l'enfer, donc j'y reste. Aujourd'hui, je me dis, si je suis plus avec lui, ouais, ça va être triste, parce que forcément, c'est triste, mais je m'en sortirai, enfin, tu vois, il se passera autre chose. Donc, certains diront, c'est horrible, parce que du coup, c'est pas la personne qui est assez importante pour toi et tout, si, puisque je reste. C'est juste de dire que, si, justement, je l'aime assez pour rester. Elle est assez importante pour moi pour rester, c'est juste que du coup, je reste pas, parce que je m'en sortirai pas sans elle. Mmh.
Ce
qui est beaucoup mieux. Parce que oui, j'imagine que je me sépare de quelqu'un, j'ai pas envie qu'il retrouve quelqu'un tout de suite. Et de toute façon, les gens qui retrouvent quelqu'un tout de suite, en général, c'est plus un truc pansement qui fonctionne pas. Mais c'est pas pour autant que je lui souhaite pas de, au final, quand et l'un et l'autre, on aura appris à faire le deuil de notre histoire, à rencontrer quelqu'un d'autre et à être très heureux avec quelqu'un d'autre. Enfin...
Est-ce que ça a été difficile pour toi d'aborder le sujet du viol que t'as subi pour ton nouveau spectacle?
C'était pas si compliqué à écrire parce que j'étais assez serein sur le sujet à ce moment-là. Donc il y avait ce truc de bah en fait c'est là et viens on en parle. Ça a plus été une crainte, enfin ça a été plutôt un processus compliqué de trouver des vannes à faire dessus. À quel moment les vannes seront assez justes, à quel moment j'ai assez de recul, à quel moment les gens qui ont pu vivre cette expérience-là vont pas le prendre contre eux. C'est un humour qui quand même, qui flirte avec une frontière qui est très fine. Donc ça a été long. Je me suis dit, putain, est-ce que ça va faire rire? Et puis il y avait surtout cette crainte de dire, mais j'ai tellement une image assez solaire, sympa, souriant, le bon pote, que je me suis dit, mais là, je vais débarquer avec un truc que les gens, ils vont pas comprendre, quoi. Et en même temps, j'avais très envie de changer de...
Pourquoi ?
D'image. Parce que déjà, je trouve ça toujours très chiant, les gens qui font un deuxième spectacle comme ils ont fait le premier, en fait. Parce que, ah là là...
ça a bien marché.
Ça a bien marché. Donc, en fait, il y en a plein qui font vraiment le même truc, en
on
fait.
On toujours le confort.
Voilà. Et moi, je pars toujours du principe que c'est toujours quand même toujours plus intéressant d'offrir aux autres autre chose tout en gardant une énergie qui retrouve. Enfin, je veux dire, on se transforme pas complètement. C'est pas non plus un personnage diamétralement opposé du premier, mais c'est quand même différent. L'humour est différent, en tout cas. La personne peut être un peu la même, mais tu vois, l'humour est différent. Et puis, ouais, j'écris pas des spectacles pour écrire un spectacle. Je pars du principe que, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui font ça très bien, d'écrire des trucs un peu du quotidien, etc. Moi, j'arrive pas à faire ça, hein, parce que j'ai besoin d'avoir un truc à raconter qui m'anime complètement pour avoir le courage de monter sur scène. Tu vois, je monte pas sur scène juste pour... tu vois, sinon j'ai l'impression d'avoir rien à dire et je suis là, voilà, je suis complètement illégitime et j'ai déjà un syndrome de l'imposteur qui me hante toute l'année. Donc voilà, si j'y vais, c'est parce que je me dis que j'ai un truc à dire. Et qu'à ce moment-là, mon producteur... pour le deuxième spectacle, c'était pendant le confinement. Moi, j'écrivais, du coup, je prenais des notes sur plein de trucs, et notamment sur ce viol qui remontait un peu à la surface parce que je pensais que c'était un truc que j'avais digéré. Et en fait, avec ces histoires d'amour qui se terminaient, etc., ces espèces de dépendance un peu affective. Et puis moi, je pars toujours du principe que on cherche chez l'autre des réponses à des questions qu'on n'a pas trouvé encore en soi. Et du coup, cette histoire d'amour avait commencé à répondre, j'avais commencé à trouver un écho un peu chez lui, ça s'est fini, et du coup, j'étais là genre, j'ai l'impression qu'on m'enlève un truc sur lequel j'étais en train de peut-être de mettre un doigt intérieurement. Et du coup, hyper frustrant, donc ce truc de dire, bah du coup, je vais écrire, parce que du coup, il faut que je sorte ce truc-là. Et j'étais là-dedans, et mon producteur m'a appelé en me disant, bah tu veux pas faire un deuxième spectacle, parce que le premier marche bien, donc est-ce qu'on n'enchaînerait pas, tu vois. Et du coup, moi, je dis, bah j'ai un truc auquel je pense, mais par contre, ça va être très différent. Il a même pas voulu savoir de quoi j'allais parler. Et
surprise
ouais, et surprise, et voilà.
Donc c'était ça le point de départ, quoi.
Ouais.
Parce que tu t'abordes d'autres, je trouve que tu t'ouvres énormément et... C'est une réflexion plus macro, hein, mais hier, j'ai regardé le doc de BTS,
ouais.
Tu sais, les chanteurs, et en ouais. fait, j'étais choquée de voir à quel point ils sont hyper à l'aise avec leurs émotions, hyper vulnérables, ils pleurent, ils s'entraident, tu vois, ils se charrient pas du tout comme des mecs le feraient, je pense, ouais. en Europe, tu vois, quand il y a ce retour émotionnel. Et en fait, ça m'a vachement fait réfléchir parce que je me suis dit, mais on est beaucoup... d'artistes, tu vois, si on élargit le terme, mais à vouloir être justement irréprochable, à vouloir être parfait, à vachement contrôler notre image, etc. Alors que finalement, il n'y a rien de plus puissant que la vulnérabilité. Je pense que pourquoi ils sont aussi appréciés
ouais,
aujourd'hui,
sûr.
C'est parce que, donc moi je ne les connaissais pas tellement, c'est plus que je m'intéresse à la culture que j'ai regardé ce doc, mais j'ai compris en partie qu'est-ce qui explique qu'eux plus qu'un autre boys band. Je crois que c'est parce qu'ils ont toujours été, genre ils pleurent sur scène, enfin en fait une vulnérabilité qui fait que tu noues un lien ouais. extrêmement fort avec l'autre.
Bah oui, mais je pense que c'est ça qui a fait le succès aussi du spectacle, c'est cette espèce de sincérité et d'arriver sur scène avec un peu ça en disant bah en fait voilà c'est là, et puis le fait que c'est quand même assez universel, c'est pas universel parce que tout le monde n'a pas vécu d'agression, de viol, etc. Mais les angoisses, l'anxiété, la peur de l'abandon, le regard des autres, c'est quand même quelque chose qui hante un peu les autres. Et manifestement, quand même, les agressions, etc., c'est des choses qui sont assez communes, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'agressions sexuelles ou autres. Je veux dire, l'autre qui s'incruste dans ta vie, dans ton corps, qui t'agresse physiquement, c'est des choses qui sont communes en fait. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça verbalement, le harcèlement. Enfin, donc c'est des trucs. Je me suis dit finalement, ça va toucher beaucoup de gens en fait. J'espère. En tout cas, c'est ce que j'espérais. Et aujourd'hui, c'est ce que je vois. Et c'est ce que je disais quand je critiquais un peu l'humour du quotidien entre guillemets. C'est que moi, je trouve qu'il y a rien de plus galvanisant, de plus flatteur et de plus... C'est une espèce de récompense de voir quelqu'un à la fin du spectacle. Hier, quand je suis sorti de scène, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Il y a quelqu'un qui t'attend en bas, elle voudrait te dire un petit mot, etc. » Et c'était une nana, je sais pas, de 30 ans, très mignonne, qui me dit « Merci parce que c'est hyper rare de voir des gens parler, de faire rire sur des sujets comme ça qui sont si sérieux et si durs et si personnels. » Et merci parce que ça m'a parlé. Je sais pas pourquoi ça lui a parlé. On n'a pas parlé à ce moment-là, etc. Et puis ça me regarde pas. Mais d'un coup, il y avait ce truc de ça lui a, ça a évoqué un truc en elle et elle est sortie avec ce truc de. J'imagine peut-être qu'elle elle est rentrée en se disant ah je me sens un peu moins seule sur certains sujets. Et comme je te disais, quand moi j'allais au cinéma et que j'avais le sentiment de voir des sujets en me disant ah là là mais du coup il y a des gens qui vont aller voir ce film et ce film là moi il me parle. Pour ça, et du coup, il y a d'autres gens qui vont peut-être comprendre ce que je ressens. Enfin, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, Inch'Allah, cette meuf va sortir de la salle en se disant, en fait, il y a peut-être d'autres gens qui sont connectés à moi. Voilà, bon, j'ai peut-être complètement fantasmé un truc, mais en tout cas, elle était contente que j'ai parlé de ces choses-là, et je me suis dit, putain, ça, c'est chambé. Mmh. La prise de risque, c'est chambé. Parce qu'on se dit toujours, putain, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont comprendre? Machin. Et quand tu prends du temps pour écrire, que tu choisis tes mots et que tu essaies de faire un truc qui soit vraiment en adéquation avec toi. Il y a des gens à qui ça plaît pas, hein, c'est ok. Et qu'il y a des gens qui viennent te dire ça, tu te dis putain, c'est charmé.
C'est quoi le dernier risque que t'as pris?
Le dernier risque que je suis en train de prendre, c'est un autre projet sur lequel je suis en train de bosser. Je vais pas trop en parler parce que j'espère que ça me porte l'œil.
Je suis un peu pareil.
Mais ouais, voilà.
Il faut qu'on dépasse ce genre de pensée magique hein, pour. Sinon, tu vivras toujours dans la superstition.
Ouais, mais c'est
moi,
pas
là. Moi, d'un côté,
là...
je me dis, si tu le dis, t'as plus d'autre choix que de le faire.
Ah, mais de toute façon, je suis dedans.
Ok. Donc non, it's happening.
Okay. Ah ouais, c'est en train d'arriver. C'est juste qu'il faut que ça se passe bien.
Okay.
Mais oui, c'est un gros projet sur lequel je bosse depuis très longtemps. Et en fait, non, je veux pas en parler parce que je bosse dessus depuis tellement longtemps que je me dis, putain, le jour... Déjà, je l'ai gardé pour moi pour pas l'éparpiller. Tu vois, pour pas dire ça c'est à propos de ça machin que du coup maintenant je me dis putain le jour où en fait le truc va se faire si ça se fait et que je vais dire putain mais en fait ça fait X temps que je bosse là-dessus je me dis putain c'est trop bien quoi parce que je me suis toujours dit ah, ça va pas se faire ou c'est improbable et si jamais ça arrive j'en mets
horizon quoi fin 2024
horizon s'il faut ça se fait cette année enfin okay, l'année dans 2024
l'année qui arrive. Tu parles du coup de beaucoup de sujets très intimes dans ton dernier spectacle, Irréprochable, de quoi est-ce que t'as pas parlé?
Dans ma vie?
Ouais. De quoi est-ce que t'as pas osé parler?
Ah, de quoi j'ai pas osé parler? Pas grand-chose, parce qu'en fait, je parle quand même de beaucoup de choses. Voilà. Les trucs que je m'interdis sans m'interdire, c'est les sujets sur lesquels je sais que j'ai pas assez de recul ou de connaissances. Et à partir du moment où je me sens pas légitime pour parler d'un sujet, j'en parle pas, parce que je trouve qu'il faut pas parler de choses qui vont... tu vois, par exemple... Il y a plein de gens qui font des blagues sur, je sais pas, le conflit israélo-palestinien, qui sont des sujets politiques qui peuvent être très drôles et que moi je trouve hyper drôle quand c'est bien fait et tout. J'ai pas une connaissance du sujet qui est assez développée. Je me risquerais pas à parler d'un sujet qui est aussi touchy. Et ça peut être autre chose, hein. Je veux dire, il y a des trucs géopolitiques comme ça où moi je dis non, parce qu'en fait, à moins que je me dise prochain spectacle, je fais un truc politique et là je commence à bûcher. Sur des sujets et je me dis vas-y je parle de ça et j'aurais bûché et après tu peux me dire n'importe quoi genre vous avez pas raison de dire ça et je dirais si parce que ça bon voilà mais si je me sens pas légitime je le fais pas.
Je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait avec Jérémy Ferrari si ce n'est pas encore fait.
Oui,
il a une approche en effet où lui bosse à donf un sujet
mais
avant
Jérémy,
d'en parler quoi.
Il bosse tous les trucs sur la bouffe pharmaceutique etc machin sont dans les spectacles et moi quand je l'ai vu sur ce spectacle j'étais là putain chambé mais c'est un taf monstrueux de recherche. Et auquel cas, franchement, fine. Tu vois, parce que le mec, il se renseigne, et du coup, très bien.
Mais donc, toi, dans ton intimité, il n'y a pas de. Parce qu'on pourrait se dire, finalement, là, tu t'es tellement livré, qu'est-ce que tu auras d'autre à livrer dans le prochain?
Dans le prochain, déjà, on va prendre un peu le temps de faire autre chose. Et le prochain, d'ici là, il se sera passé d'autres choses. Et puis, j'aurais pris, peut-être la paternité, le rapport aux parents, j'en sais rien, mais il y a plein de trucs.
T'as encore des sujets qui t'animent.
Ouais, j'imagine. Pour l'instant, c'est pas là, parce que je suis sur d'autres trucs, mais j'imagine qu'on est sans cesse en. J'imagine que actuellement, je suis en train de processer des choses dont je parlerai peut-être dans un prochain spectacle, tu vois.
Et pour qu'on se rende compte, c'est quoi à peu près le process pour qu'un spectacle voie le jour ? Tu vois, la timeline, c'est... T'as une idée, tu l'écris en quoi ? Un mois, six mois, un an ?
Moi, le spectacle là, je l'ai écrit en un an et demi. Hein.
Ah ouais ?
Ouais, parce que d'un coup, je me dis pas... Enfin, tu vois, il y a des gens qui font des résidences d'écriture, ils partent pendant 2 semaines, on écrit à Bâle et tout. Ouais. Après, je pense que ça dépend du type de spectacle que tu écris aussi. Moi, c'était un spectacle qui est quand même beaucoup sur la psychologie, l'intimité. Donc, il y a un moment donné où je ne peux pas non plus brasser tous les sujets en 2 semaines. À un moment donné, il faut quand même que je prenne un peu de temps pour assimiler tout ça. Donc, j'imagine que ça dépend du spectacle que tu écris et de ta manière d'écrire. Moi, ouais, ça a pris un peu de temps parce que c'était un peu long. Mais je pense que ça commence à partir d'une idée, quoi. Où tu te dis, je pourrais commencer à parler de ça. Et puis moi, j'écris en plus, tu sais, avec un peu un début et une fin. Pour moi, il faut qu'il y ait une espèce de logique. Il y a des gens qui écrivent des spectacles, qui passent un peu du coq à l'âne, et c'est super, ça parle de plein de trucs. Voilà. Moi, j'ai besoin un peu de me dire, dans ce spectacle-là, je vais parler de ça. Je peux intégrer d'autres sujets qui peuvent s'imbriquer dedans. Mais en tout cas, ouais, faut que déjà, avant que j'écrive un truc, faut que je me dise, en fait, je vais... Grosso merdo, le sujet, ça va être ça.
Ouais. Voilà. Et donc là, tu t'es dit, ça va être...
les émotions.
Les émotions. Un an et demi. Et ensuite, tu fais quoi ? Tu fais une première... un premier test sur scène avec un cercle proche qui te donne leur feedback pour améliorer... Non ?
Non. Je l'ai fait lire à mon metteur en scène. Je l'ai fait lire à des gens de ma prod, desquels je me sens un peu proche artistiquement, dans l'humour, etc. A priori, je ne les fais pas lire à, je sais pas, à Patrick Sébastien. Enfin, tu vois, je sais que visiblement, on n'aura pas le... Voilà.
On l'embrasse.
Je suis en train de penser au fait que si j'avais fait lire le spectacle à Patrick Sébastien, ça aurait été très très drôle.
Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard. Il faut l'inviter. Et donc je le fais lire, mais après moi je teste pas. Et puis en fait, le spectacle a tellement un... Oh waouh, je vais y arriver. A tellement un début et une fin que tu vois, c'est difficile en plus de sortir des sketchs que tu vas tester en plateau et tout. En tout cas, pour ce spectacle-là, c'était vraiment compliqué. Donc en fait, je l'ai fait lire et puis après, je l'ai joué. Je suis arrivé sur scène en mode.
Mais tu fais des modifs quand même par rapport au retour qu'on te fait ou...
Ah, bien sûr.
Ouais.
Non, mais alors, pas par rapport au retour que les gens me font, par rapport à des gens auxquels je fais confiance.
Ouais, ok.
Qui ont pour moi un regard assez juste sur ce que je veux faire.
Assez pro,
tu vois, quoi. Qui ont compris ce que je voulais faire, là où je voulais aller. Tu vois, parce que bon, oui, il y a des gens qui vont te donner un retour et tu te dis, ah bah oui, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà. Donc, non, et là, dès le premier jour, je me souviens, c'était à Nantes où j'ai commencé à jouer le spectacle. Dès le premier jour, le lendemain, j'étais derrière mon bureau en disant, là, c'est trop long, là, ça va pas, là, il faut mettre une blague, c'est trop lourd. Enfin, ouais. C'est un travail après d'affinement, quoi, d'affinage.
Est-ce que t'as déjà vécu, je sais pas quel terme employer pour que ce soit le plus possible, mais finalement, voilà, pas de réaction, pas de retour vraiment positif de la part du public. T'as déjà vécu cette espèce de rejet ?
Ouais, au tout début, pour le premier spectacle, même quand j'ai commencé, t'as des salles, tu joues devant 15 personnes. Puis c'est pas... Ouais, si, t'as des publics qui réagissent pas. Hein. T'as des gens qui sont pas... Donc parfois, c'est arrivé, au tout début particulièrement. Et au tout début, tu vois, même la première du spectacle, là... Quand je parle du viol, dépression et tout, donc il y a quand même des sujets qui sont assez noirs. Moi, j'avais fait aucune promo, donc on arrive en mode les gens, ils ont l'image qu'ils ont de toi.
Très bon enfant sur les
réseaux. Très
bon
enfant et tout. Donc moi, j'arrive et je pense qu'au début, il faut assumer des sujets comme ça. Il y a des mots, tu vois, la première fois que tu dis viol sur scène, même pour moi, il y a quand même un truc à l'intérieur qui fait. Tu vois, ça y a quand même plein de trucs qui remontent, quoi. Donc, la première du spectacle, c'était bien, mais c'était timide. Parce que d'un coup, les gens débarquent en mode, et puis en plus, on démarrait. Là, je fais une espèce d'intro, il y a 5-10 minutes avant que j'en parle. Mais moi, j'arrivais en mode, genre, paf, quoi. Genre, on parle de ça, de but en blanc. Donc, j'imagine que les gens étaient un peu là... Et puis moi, en face, je devais pas assumer complètement. Donc, c'est des sujets... y a des trucs que j'aurais parlé d'autres choses, ça aurait été plus facile que ça soit plus fluide. C'est des sujets qui prennent du temps à mettre en place, ouais.
Et ensuite, tu joues pendant approximativement combien de temps ? Combien de mois ?
Ah bah là, on va le jouer, on l'aura joué pendant 3 ans.
Ah ouais?
Ah ouais.
Mais attends, t'en as... enfin, je suis obligée de te poser cette question, t'en as pas marre?
Bah non, bah là on arrive à la fin, donc il y a ce truc aussi de profiter aussi. Non, parce que déjà, affinage, tu vois, on a quand même eu, c'est quand même plus que quelques semaines. Hein, tu vois, on a quand même, enfin, il a quand même beaucoup bougé, tu vois. Moi j'ai retiré des trucs, j'en ai rajouté, j'étais en mode ça c'est vieux, j'ai l'impression que j'en ai marre. Donc tu fais bouger les choses.
Ok.
Donc non, mais 3 ans, ouais, et puis on l'a joué beaucoup, quoi.
Bah ouais. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas conscience
beaucoup
que c'était...
Et tout, ouais. Bah là, tu vois, on termine du coup à Paris le 2 avril à l'Olympia.
Ouais.
En tout, on aura fait plus de 30 000 spectateurs à Paris.
Ah ouais. Donc,
tu vois, 30 000, c'est beaucoup, quoi.
Ouais, ouais, c'est clair.
Rien qu'à Paris.
Et ça, tu ressens quoi de savoir ça?
Bah, je me dis c'est chambé, parce que quand j'ai écrit ce spectacle-là, je me suis pas dit que... Enfin, j'avais peur que ça marche pas, quoi.
Mm.
Donc, c'est cool.
De manière générale, je trouve que même, tu vois, dans les interviews que j'ai pu voir de toi et puis sur les réseaux, t'es très, très libéré dans ta parole. J'ai l'impression que tu n'as pas ce troisième œil qu'on a parfois quand on est une personnalité publique de « est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux pas dire ça ?» Qu'est-ce qui t'a permis d'être à ce point-là à l'aise avec
ah ouais,
ce que tu es, ce que tu penses ?
J'ai pas l'impression d'être si...
Moi, quand j'ai regardé ton interview de la boîte à questions là, de Canal+,
ouais.
Je me suis dit « putain, mais il a pas peur, quoi ». Genre, tu réponds vraiment de but en blanc à toutes les questions.
Ouais.
Sans. Tu sais, il y a des personnes qui prennent, qui arrondissent les angles, qui contournent un peu. Toi, t'y vas, tu réponds. Enfin.
Ouais.
T'as pas peur, quoi. Je pense qu'on pourrait te demander qui tu détestes le plus sur, en France, tu le dirais, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Ah non, mais finalement, tout le monde a un talent. Enfin. Tu vois, t'as pas peur de déplaire, j'ai l'impression.
J'ai pas peur de. Non, enfin bon, il y a des trucs que je dis pas. Hein. Je dirais pas qui je déteste le plus. Il y a
okay.
des gens que j'aime pas. Mais. Mais non, j'ai pas peur de déplaire. Si, j'ai peur de déplaire. C'est juste qu'à un moment donné. Les choses que je dis, c'est parce que c'est des gens à qui je m'en fous de déplaire. Enfin oui, a priori, de dire qu'il y a des putains de boomers qui nous cassent les couilles à dire que... Enfin, franchement...
Qu'est-ce qui t'énerve le plus en ce moment, dans la société?
Bah, cette espèce d'ambiance de gens, justement, qui supportent pas qu'on soit un peu en train de libérer les gens de tous ces carcans et tout, qu'il y ait des gens qui soient un peu déconstruits, qui disent qu'ils cherchent leur identité de genre, leur sexualité, et qu'en fait, ça ne leur appartient qu'à eux, et que d'un coup, il y a des gens qui nous saoulent à dire « Ah là là, mais on sait plus qui on est », mais en fait, chacun, ça appartient à chacun, en fait. Qu'est-ce que tu viens nous saouler à dire vous êtes en train de tout nous chambouler? On ne chamboule pas. On vous chamboule pas.
On est nous chamboulés, laisse-nous être chamboulés
en fait,
dans notre coin.
On dit que nous, on a été chamboulés, que nous, on s'est beaucoup remis en question parce qu'on était dans un modèle qui ne correspondait pas et qu'aujourd'hui, on est juste en train de dire aux gens, si vous avez le sentiment de pas correspondre à ces codes-là, c'est OK et en fait, vous pouvez... Vous êtes qui vous avez envie d'être, en fait. Donc, ah, et il y a des gens... Mais putain... Mais pff, tourne la page en fait, c'est pas grave, tu vois. Bah tu vois, c'était comme j'ai vu une vidéo là de Thibaut InShape sur Twitter ou Insta, je sais pas, où il dit quand on va aux toilettes en 2003, donc tu vois le truc, le symbole homme, le symbole femme, c'est ok. Quand on va aux toilettes en 2023, le symbole tortue, le symbole licorne, le machin. Oh, enfin tu vois. Et puis, il précise humour. Déjà, quand tu précises humour, mec, c'est que...
c'est mal barré.
Déjà, tu sens que, en fait, c'est un putain de boomer, tu vois. Et t'es là, waouh, qu'est-ce qu'il y a, genre... une fois, t'es allé dans des toilettes de bar, il y avait une licorne dessus. Bah, s'il y a une licorne dessus, c'est que tu peux y aller. Donc, c'est cool, en fait. Go for
ouais,
it.
Ouais, ouais, ouais.
Tu vois, puis à l'intérieur, c'est genre, ouais, ouais, c'est clair, on sait plus. Et puis, non, mais t'as oublié de, les gens, moi, je me sens plus castor. Enfin, tu vois, oh là là, mais putain, mais.
C'est vrai que je me demande toujours qu'est-ce qui fait finalement que les gens veulent plus aller vers l'enfermement que l'ouverture.
Mais c'est fou!
C'est fou! Est-ce que c'est encore une fois le confort? Parce que c'est inconfortable, tu vois, de la nouveauté, le changement.
Ah mais attends, moi je vois un nombre de mecs qu'on a pu même avoir tu vois, sur France Inter, etc., qui arrivent en disant « Mais moi, je suis un homme de 50 ans, blanc, je sais plus où me mettre. » Mais tant mieux. Enfin, je sais pas si t'es au courant, parce qu'il y a des gens qui ont passé toute leur vie. Enfin, moi, j'ai 36 ans, j'ai passé 33 ans à ne pas savoir où me foutre parce que je suis un mec gay et que j'étais... Enfin...
Bienvenue dans ce que j'ai vécu.
On pointe du doigt, mais bienvenue en fait. Genre, c'est dommage que tu t'aperçoives à 50 piges qu'il faut se remettre en question. C'est là où il faut se poser... Enfin, ils sont fous. Ils sont fous.
Et tu leur disais en plateau ?
Il y a une fois, je l'ai dit, ouais. J'ai dit, bah ouais, mais en fait, il y a beaucoup de gens, les personnes racisées, il y a un nombre de personnes incalculables qu'on pointe du doigt depuis millénaires.
Enfin, ouais, des siècles.
Des siècles,
ouais.
J'allais dire millénaires, mais pas du tout. Depuis des siècles.
À l'époque, les hommes préhistoriques n'étaient pas racistes, voilà, spoiler.
Non, mais voilà, enfin, t'es là, mais. Puis d'un coup, c'est, ouais, je sais plus où me mettre. Waouh, mais.
Est-ce qu'ils faisaient preuve après d'une certaine
ouverture? Non, mais après, t'as toujours ce truc de, vous savez, moi, je suis évidemment pour la libération de la parole, le féminisme, etc. Mais je pense qu'il faut pas pointer du doigt. Mais on dit pas qu'on pointe du doigt, en fait. Vous vous sentez pointer du doigt tout seul, en fait. On n'est pas en train de pointer du doigt des gens. On est en train de pointer du doigt un mode de pensée, un mode de fonctionnement qui a foutu des gens dans des cases et qui a malheureusement paralysé des gens qui se sont sentis incapables d'être qui ils avaient envie d'être. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit ça, non. Est-ce qu'on peut arrêter avec ça? C'est juste que d'un coup, en fait, vous aviez tellement le dessus sur tout que maintenant qu'on vous dit, bah non, peut-être qu'en fait, on va arrêter de penser comme ça, un peu, et ben d'un coup, ah là, mais du coup, moi, je pense quoi? Bah, je sais pas.
Réfléchis.
Ouais, prends du recul.
Hein.
Prends un psy, on l'a tous fait. Ouais. Voilà, et puis ça fait du bien à tout le monde.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, si tu devais nous partager peut-être les trois plus grandes leçons que tu retires de tes 10 ans de thérapie ?
Cette prise de recul, tu vois, de distance par rapport à ses émotions, savoir que il faut discerner ce qu'on ressent, comment on agit en fonction de ses émotions, prendre de la distance sur le fait que il y a des choses qui sont liées à des trucs qui viennent du passé, que tu vois, essayer de décortiquer, prendre du recul, c'est vraiment ça. Prendre du recul sur tout, sur ce qu'on a vécu, sur comment on réagit à certains comportements d'autres personnes, sur comment nos comportements sur les autres, tu vois, comment on envisage les autres. Et puis, je trouve que ça apprend à vivre en société, en fait. À accepter les gens avec leurs défauts, leurs angoisses, leur manière de pas toujours être à la hauteur de ce qu'on espérait. Enfin, tu vois, la tolérance, la bienveillance, ouais. C'est pour ça que je dis que tout le monde devrait y aller.
Quel est le prochain grand chantier intérieur que t'as envie de bosser?
D'essayer de me mettre moins à la pression. Je me mets une pression absolument folle et je bosse énormément et je pense qu'il y a des moments où je bosse trop, du coup je bosse pas forcément bien, j'imagine aussi. Et cette pression de toujours être dans l'hyper-productivité, etc. Ouais. Ouais.
Bon, bah, je t'appellerai quand ce sera fait, tu m'auras des conseils.
Ouais, grave. Bah, ouais, bah, sinon, si tu le fais avant, tu m'appelles.
Ouais. Quelle est la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois ?
Non, pour la première fois, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait un truc pour la première fois.
Voilà, c'est sur ta to-do pour.
Ouais, grave.
Janvier 2024, une bonne résolution.
Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Ouais, c'est vrai. Si, et cette année, j'ai quand même fait plusieurs tournages. Et c'était la première fois que je tournais en tant que comédien pour un film et pour une série et tout. Donc,
ok. Donc, tu veux renouer avec tes amours du cinéma ?
Ouais.
Ok.
Grave. Ouais, j'ai tourné la série de Jamel Debbouze, là, pour Canal. Okay. Avec Camille Chamour, Ramzy et tout. C'est charmé. Ça va être trop bien.
Qu'est-ce qui a fait que tu te sois dit la scène m'a apporté beaucoup et c'est là... Enfin, je me suis orienté vers ça pour une raison. Mais finalement, j'ai quand même envie de revenir à cette fiction.
Bah, parce que la scène, j'y parle beaucoup de moi. Ça a été un moyen de moi et des autres. Parce que, voilà. Mais ça a été un moyen beaucoup de connecter avec les gens, comme je le disais, tu vois. Directement, de me faire une espèce de place, de peut-être, je sais pas, tu vois, inconsciemment, de montrer que j'étais quelqu'un de bien, tu vois. Peut-être. Tu vois, qu'on me voit et qu'on me voit comme moi, j'avais décidé qu'on... qu'on me verrait, donc avec des gens qui certainement n'apprécient pas ce que je fais, etc. Mais en tout cas, je me dis là, je donne une image, c'est moi qui la crée, j'ai l'impression que c'est moi qui, c'est très sincère, enfin vraiment. Donc, je trouve ça hyper chouette. Du coup, je me dis, bah, les gens, ils savent, c'est ok l'image qu'ils ont de moi, parce que c'est ça que je veux transparaître, que je veux faire transparaître, c'est ok. Et par contre, je pense que la limite de la scène, c'est que, moi, j'ai un truc très créatif aussi dans tout ce qui est mise en scène. Tu vois, au cinéma, j'adore les plans, enfin, tu vois, les couleurs, le. Puis le fait de jouer avec d'autres gens, et puis en fait, de créer des personnages, de. Je trouve que le cinéma, c'est beaucoup d'invention, d'inventivité. Et du coup, le champ des possibles est encore plus large, ce qui est encore plus effrayant. Parce que tu peux tout faire, du coup. C'est très galvanisant aussi, quoi. Puis tu peux parler de plein de choses. Tu vois, moi, j'arriverai pas à monter sur scène pour, je sais pas, parler de la ménopause ou le cancer de ma grand-mère. Tu vois, je fais une blague dessus, ok. Mais par exemple, si demain, je me dis, mais en fait, elle m'a parlé de plein de choses que je trouve hyper intéressantes et j'adorerais faire un film. Je me dirais, mais chanmé, je vais aller caster une nana qui va jouer ma grand-mère et qui va interpréter justement ce que moi, j'ai gardé d'elle, etc. Chose que moi, je serais incapable de faire. Enfin, parce que je ne suis pas ma grand-mère et que je peux pas le faire. Mais c'est ça que je trouve tout cool. C'est de dire, tu vois...
Ça passe par quelqu'un d'autre que toi.
Ouais, et puis ça m'ouvre à d'autres choses, à parler d'autres gens, à parler de.
J'ai quelques dernières questions pour toi. Si t'avais une ressource, que ce soit un livre, un film, un spectacle, l'un ou l'autre, qui t'a particulièrement touché et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ?
Un film que j'ai adoré cette année, c'est Les Filles d'Olpha, qui est un film, qui est un espèce de docu-fiction. En fait, c'est une mère de famille qui avait 3 ou 4 filles. Et en fait, il y en a certaines, une ou deux, je crois, qui sont parties, qui se sont voilées et qui sont parties, en fait, en Syrie, qui se sont radicalisées, en fait. Et ils ont demandé à des actrices de jouer la mère et les deux filles qui sont parties. Et les filles qui sont restées jouent aussi avec la mère qui est toujours là, en fait. Et du coup, il y a un travail qu'on voit à l'écran de qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que je le jouerais. Et du coup, elles assistent aux scènes qui sont jouées par d'autres, de ce qu'elles ont vécu, elles. C'est, honnêtement, c'est bouleversant. Parce qu'elle explique comment est-ce qu'elle a vu ses filles se radicaliser, ce qu'elle a fait, comment elle s'est sentie incapable de les retenir, comment elles sont parties du jour au lendemain, comment le printemps arabe en fait les a aussi poussées à se radicaliser. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est hyper émouvant et j'ai adoré ce film.
Okay. Je le mettrai dans les notes du podcast, tu m'as vraiment donné envie de
ouais,
le voir.
Ouais, c'est génial. Okay. C'est hyper bien joué, c'est vraiment génial.
Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que t'aimerais entendre ?
Patrick Sébastien.
Premier degré ?
En vrai, ce serait drôle, franchement, parce que tu poses des questions intéressantes et qui permettent de se remettre aussi en question. Et ça je trouve ça... Tu sais, moi, je me suis toujours dit, quand on me propose la question à qui t'inviterais à un dîner, machin... Ouais. Il y a des gens un peu évidents, tu vois, je mettrais Simone Veil, Britney Spears, Isabelle Huppert, Frida Kahlo, et puis je dis toujours, je mettrais bien Marine Le Pen, juste pour savoir, même Marine Le Pen, tu vois, ici ce serait intéressant, juste pour savoir à quel moment ces gens-là disent des trucs pour plaire à une certaine partie de la population, mais à quel point ils croient vraiment à ce qu'ils disent. Je trouverais ça intéressant.
Je me demande s'ils le laissent transparaître, parce que je pense qu'ils finissent par y croire, tu vois.
Ouais, mais je sais pas si c'est un dîner
qui... pas un podcast.
Ouais, alors pour le dîner. Oui, il y a un podcast du coup, machin. Mais tu vois, le dîner, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, parce que je suis sûr qu'elle est pas autant que ce qu'elle est, que de ce qu'elle paraît, mais qu'elle fait ça pour, tu vois, c'est du populisme en fait.
Ouais,
tu vois.
Voilà. Ok. Écoute, je vais te poser la dernière question du podcast.
Allez.
Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
Ça signifie sortir de sa zone de confort. Enfin, je pense que pour prendre le pouvoir, il faut sortir de sa zone de confort. Parce que pour faire ce dont on a, ce qu'on a envie de faire vraiment, il faut sortir les doigts du huc. Et pour sortir les doigts du huc, il faut sortir de sa zone de confort. Vraiment.
C'est ce que tu fais en montant sur scène.
Ouais, et puis je pense, moi, à tous ces gens. Je me souviens, avant, quand je bossais chez Céline, j'étais vendeur. Et je jouais le soir et tout. Et puis, il y avait une meuf qui bossait avec moi chez Céline, qui avait 40 ans. Et donc, 40 ans, enfin, je veux dire, à peine 40 ans. C'est quand même pas la fin de la vie, enfin, je veux dire. Et elle disait, ah, moi, j'aurais bien fait autre chose, machin et tout. Et je disais, bah...
Vas-y.
Genre, go, quoi. Elle me dit, non, mais 40 ans, entre guillemets, c'est trop tard. Et puis, je gagne bien ma vie. Et puis, j'ai un CDI, machin... Et en fait, genre vraiment, je comprends, hein. Mais il y a un jour, j'espère que cette personne-là va pas se réveiller en disant genre ouais putain, je passe à côté d'un truc quoi. Donc j'ai plein de potes qui font ça, qui laissent la chance là, et je dis mais en fait c'est quoi mec, tu te laisses un an, tu vois comment ça fonctionne, et au pire si tu vois que putain c'est la merde, que machin et tout, bon. Tu vois, t'as un CV cool, bon, tu reprends un truc et puis voilà. Et laisse-toi au moins une fenêtre de tir pour dire j'ai essayé. Ne pas essayer. Terrible.
Merci beaucoup Tristan.
Avec plaisir,
c'était
merci à toi.
Hyper chouette. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller voir les dernières dates pour ton spectacle, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Eh ben, sur Insta ou sur mon site tristanlopin.com.
Trop bien. Voilà. Je mettrai ça dans les notes et puis à très bientôt.
Avec plaisir, merci.
Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à envoyer un petit message à Tristan. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et à nous taguer en story pour nous partager vos retours, @TristanLopin et @MyBetterSelf. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.